Voilà, alors c'est parti. J'avais prévu une belle introduction. Franchement, même une très belle introduction. Je n'ai pas peur de le dire, un peu trop longue peut-être. Donc voilà, je fais d'autocensure. C'est dommage, mais c'est comme ça, voilà. Mais je vais vous dire quand même ce que j'avais prévu, dans le détail. Donc j'avais prévu de commencer par mesurer, même rapidement, le chemin parcouru de la didactique de l'information documentation, hein, histoire de faire un petit bilan. Hein. C'est important aujourd'hui, à l'heure où quelque chose qu'on nomme ENI intègre toutes les disciplines. Donc voilà, voir si on avait bien avancé. Puis finalement, j'ai vu une réponse qui me satisfait tout à fait dans un article très récent de Cécile Gardiès, qui analyse une belle analyse didactique d'une séance pédagogique sur nos documents. Qui qualifie cette avancée didactique de l'information d'embryonnaire. Et je partage ce point de vue. Voilà, alors je serai parti dans mon intro évidemment des origines, que je datais pour moi à un congrès de la FADBEN aussi, le troisième congrès de la FADBEN, de 1993, donc ça veut dire qu'il y a déjà 22 ans quand même, hein, pour resituer les choses. Alors évidemment, j'aurais rendu hommage à tous les grands acteurs, hein, il y en a qui sont ici, je ne vais pas rentrer dans la liste. J'aurais évoqué cet élan des assises en 2003 également, et puis ce rêve du curriculum, hein, qui a commencé à cette époque-là, qui avait été porté par les assises. J'aurais évoqué aussi peut-être le rendez-vous, excusez-moi, je dirais un peu manqué peut-être de l'ERT, s'agissant de cette construction. J'aurais évoqué... Évidemment, la course effrénée autour du triangle didactique, je vous rassure, je ne rentre pas dans les détails ici. Et plus récemment, j'aurais salué évidemment les efforts de la profession pour nous doter d'un cadre de référence. Quelques exemples rapidement, le curriculum FADBEN, bien évidemment, le classeur, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui le classeur ENI, la matrice de Toulouse, très récemment également, et puis saluer évidemment la naissance, on en a déjà parlé tout à l'heure, la naissance de cette blogosphère d'information et documentation, blogosphère aussi jeune que dynamique. Et puis j'aurais, et là c'est autre chose, deuxième partie, j'aurais aussi également évoqué les freins qui tempèrent cette belle ardeur. Alors du côté de l'institution d'abord, c'est facile, je sais, je qualifierais peut-être d'un peu absente, on le voit dans ce congrès d'ailleurs, et pourtant c'est un partenaire incontournable. Mais qui a préféré, dans les années 2000, notamment, suivre une voie quasiment opposée, la politique documentaire, et qui n'a jamais souhaité, bien malheureusement, mettre en place ce groupe de travail sur la question de la transposition didactique. Groupe de travail, c'est la constitution qu'on appelle une institution de transposition. Et c'est bien dommage. Elle reconnaît maintenant, quand même, avec les efforts de cette didactique fut-elle embryonnaire, elle reconnaît quand même l'existence de savoirs scolaires de l'information documentation, mais elle les reconnaît surtout quand ils sont enseignés ailleurs, vous connaissez bien. Des freins aussi du côté de la recherche, ensuite, que je juge, pas absente, certainement pas, mais quand même un petit peu distante, que je ressens un peu éloignée des préoccupations des professeurs documentalistes. Alors distante, ben oui, ça s'explique bien évidemment, distante comme le sont et comme doivent l'être, les savoirs savants des savoirs scolaires. Hein, ici, et expliquons cela. Donc je pense, et je reviendrai là-dessus, je pense qu'il manque véritablement un pont didactique entre la recherche et l'école et les enseignants documentalistes. Voilà. Bon, il faut demander aux jeunes doctorants ce qu'ils préfèrent aujourd'hui, quand ils se lancent dans cette carrière aussi, ils préfèrent aller en cycle ou en didactique. Enfin, je pense qu'en tout cas, il y a trop peu de didacticiens. Il y en a, mais il y en a vraiment trop peu pour faire avancer aussi ce projet. Et puis des freins aussi du côté de la profession, que je trouve là, non pas absent, bien évidemment, non pas distante, mais peut-être un petit peu fuyante. C'est très personnel, je fais ce constat que le chantier didactique est peu compris, somme toute, par l'ensemble de la profession. C'est un sujet qui reste sensible, qui est perçu souvent comme un risque de déstabilisation de la profession. On a tous assisté à des réunions professionnelles, on remarque quand même que on ne discute pas beaucoup de didactique. Alors je me demande évidemment souvent pourquoi la profession résiste-t-elle autant à la didactique. Alors, il y a plusieurs explications possibles. Je vais en retenir une là parce que ça m'intéresse pour faire mon articulation, vous comprenez bien. Peut-être tout simplement parce que la didactique de l'information et documentation, elle se trouve en rupture avec la pédagogie documentaire. La pédagogie documentaire, aujourd'hui, bon, on peut appeler maîtrise de l'information, différentes appellations comme l'a rappelé Muriel hier, elle est aux origines, évidemment, de la mission pédagogique du documentaliste bibliothécaire. Alors, c'est quoi cette maîtrise de l'information? C'est un ensemble de techniques, pour dire simplement, un ensemble de techniques relatives au traitement de l'information que l'on met au service des disciplines. Pour le dire selon François Odiger, c'est une médiation qui met le document au service du texte du savoir, mais du texte du savoir disciplinaire. La maîtrise de l'information, elle ne dispose pas de son propre texte du savoir. Alors, les années 2000, justement, ont vu l'émergence de la didactique comme un contre-champ. Un contre-champ. C'est-à-dire que la didactique, bon, alors aujourd'hui, je vais avoir une vision très étroite hein, à l'intérieur du triangle. La didactique s'intéresse bien évidemment non seulement à la production, à la transmission et à la réception par les élèves des savoirs scolaires, mais aujourd'hui d'ailleurs, en tout cas, on va l'orienter, la didactique du point de vue de son axe épistémologique, va orienter l'information de documentation vers ses propres savoirs, vers ses propres objets. C'est dans cela que je parle d'un contre-champ. C'est-à-dire qu'elle transforme les objets informationnels, les objets techniques, qui étaient invisibles jusque-là, considérés comme neutres, des allants de soi, hein, pour rappeler ici une expression chère à Jean-Louis Charbonnier, hein, elle va les transformer en objets scolaires et en objets à enseigner. Donc, la didactique, entre autres, vise à écrire le texte du savoir qui manque. Cette révolution, je dirais aussi dans l'histoire de notre profession, hein, cette révolution didactique, elle peut être exprimée au travers de ce qu'on appelle la matrice disciplinaire de l'information-documentation. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on passera du quelque chose qui ressort de la transdisciplinarité à une logique disciplinaire. Donc cette matrice disciplinaire, hein, que j'emprunte, l'expression que j'emprunte à Develay, c'est, vous savez, ce principe d'intelligibilité qui organise la totalité des contenus en un ensemble cohérent. Cette intelligibilité, ce corpus cohérent, ce regard cohérent sur la discipline est important et nécessaire pour deux raisons. D'abord, évidemment, pour, comme le fait chaque discipline, pour différencier, pour se différencier suffisamment des autres champs disciplinaires. Bornage, contour, délimitation. Mais également et surtout pour apporter un regard, un autre regard. Un regard complémentaire, spécifique, plus aiguisé, plus outillé scientifiquement, hein, sur ces évolutions technologiques et sociétales que nous connaissons. Donc évidemment, cette matrice, elle va être caractérisée par des notions, par des tâches, par des méthodes, par des techniques, par des outils hein, particuliers, et donc surtout par un texte du savoir singulier. Mais ce texte n'existe pas. C'est pas faute de le réclamer depuis au moins 1989. Et pourtant, ils enseignent. Alors, ils enseignent quelque chose qui relève d'un texte du savoir qui n'existe pas. Alors, pour comprendre ce qui se passe, peut-être, il faut évidemment revenir à l'incontournable schéma de la transposition didactique de Chevalard. Très rapidement, ce processus de transposition, il est double. On va laisser ici la partie relative à la réception du côté de l'élève. Hein, les savoirs assimilés par les élèves, il faudrait travailler sur l'évaluation pour s'en rendre compte. Alors, il est double. D'abord, ce qu'on appelle la transposition didactique externe. C'est le passage des savoirs de référence au savoir à enseigner. Alors, les savoirs de référence, bon, les savoirs savants, les SIC, et puis aussi les pratiques sociales. Hein, on emprunte aussi les concepts tirés des bibliothèques, du monde du livre, de la presse, même de la recherche aussi, hein, des techniques de recherche à l'université. Et ce sont la production de la transposition didactique externe, c'est bien la production de ce texte du savoir, hein, des savoirs scolaires, et qui nous apparaissent comme étant des prescrits par l'institution. Et puis l'autre phase, partie du processus, c'est la transposition didactique interne, c'est-à-dire le passage de ces savoirs à enseigner à des savoirs réellement enseignés dans les classes et dans les CDI. Et ce travail de transposition didactique interne, c'est vraiment l'œuvre des enseignants qui font référence au texte du savoir, que nous n'avons pas, je ne sais pas si vous me suivez. Sous la forme de quoi? Normalement, le texte du savoir, c'est celui qui prend une forme, les instructions officielles, les accompagnements de programme, les manuels scolaires, bien évidemment, vous voyez bien que ça ne vous a pas échappé, nous on n'a pas de manuels scolaires, je ne sais pas qu'il en faut absolument, mais bon, maintenant il y a le classeur réuni. Hein. Donc, les profs doc enseignent alors qu'ils ne disposent pas de ce texte du savoir. Alors, comment font-ils pour effectuer cette transposition interne? À l'aveugle, par tâtonnement, avec de l'angoisse. Alors, comme ils ne trouvent rien, à faute de mieux, ils font quoi? Ils lorgnent du côté de ce que j'appellerais des ersatz. Ils prennent un petit peu à droite à gauche, voire du côté du B2I, du socle, du Pacifi. Hein, c'est-à-dire qu'ils piochent un petit peu partout les pièces du puzzle qui leur manquent. Hein, ils vont voir du côté de la CNIL pour l'identité numérique, hein, ils vont un petit peu du côté des Duscol, ils vont voir du côté des blocs du produit numérique, etc. Bon, ben, ils font une bricole avec ça. Des bricoleux, excusez-moi, j'en fais partie. Les outsiders, d'accord. Je pense qu'en effet, je répondrai plutôt du côté des outsiders pour l'instant. Voilà. Sans être vraiment satisfait. C'est quand même une situation assez peu banale. Pensons aux autres disciplines. Les savoirs, ce qui est vraiment particulier chez nous, c'est que ces savoirs savants, ils existent bien. Ces savoirs de référence, ils existent bien, ils sont là. Mais ils ne sont pas didactisés. C'est-à-dire que cette nosphère, cette institution de transposition n'existe pas. Ce qui nous manque, il nous manque ce pont didactique. Absence de transposition didactique externe en information de documentation. C'est ce qu'on pourrait appeler le chaînon manquant. Et pourtant, ils enseignent. Ils produisent, de fait, des savoirs enseignés. Alors, ma contribution à ce congrès, à défaut de pouvoir restaurer le chaînon manquant, je ne vais pas me prendre pour Yves Coppens, hein, ça sera d'être le témoin de ce qu'ils enseignent réellement ou déclarent enseigner. Donc, il ne va pas s'agir ici du curriculum prescrit, là j'emprunte à Pernoud, ça va être plus commode, le curriculum prescrit, prévu, formel, côté noosphère. Il ne va pas être question non plus du curriculum atteint, appris, du côté du travail des élèves, mais il va être question d'un curriculum réalisé, acté par les enseignants. Mais là encore, attention, on va se focaliser plutôt sur les savoirs enseignés en tant que corpus formel, et non pas saisi dans l'acte d'enseignement, dans le CDI. Hein, je n'ai pas pu y aller, on rentre partout, donc je ne peux pas savoir ça. Donc je vais en rester, en effet, un corpus vraiment formel. Donc la question qui va m'intéresser, et j'espère vous intéresser, c'est qu'enseignent réellement les professeurs documentalistes et comment? Donc au-delà de cet enjeu didactique, il y a évidemment un enjeu épistémologique, hein, c'est-à-dire connaître les contours réels de cette matière disciplinaire, mais également savoir aussi comment se positionnent ces savoirs scolaires au regard de la tripartition translittératique, information, médias et numérique. Je vais rapidement, les enjeux professionnels aussi, savoir si la matière telle qu'elle existerait, telle qu'elle existe, est suffisamment ou non constituée pour répondre aux défis de venir aujourd'hui. Et puis, toujours enjeu professionnel, évidemment, identitaire, c'est-à-dire que postulat pour exister et être reconnu dans leur expertise et dans leur mandat pédagogique, les profs doc doivent se réunir autour d'une matrice disciplinaire commune, constituée de contenus identifiés, de tâches, de méthodes, d'objets déterminés, etc. Donc mon questionnement, 1, quelles notions sont réellement enseignées aujourd'hui? À quel moment du cursus? Et puis, au-delà de la diversité des acteurs, qui sont, on l'a rappelé ici hier, isolés, au-delà de cette dispersion, de cette diversité, et des manières de faire, évidemment, est-ce que l'enseignement infodocumentaire est cohérent, hein? Ou bien est-ce qu'à l'opposé, est-ce qu'il se fait n'importe quoi dans les CDI, chacun fait ses petites affaires dans son coin? Question, hein? Une question. Suspense. Deuxième question. Quelles méthodes sont mobilisées par les enseignants documentalistes pour la transmission de ces savoirs? Et là, juste, voilà, question annexe. Est-ce qu'ils font bien ce qu'ils disent faire? Vous savez, la profession, c'est toujours identifiée par opposition au modèle transmissif des disciplines. Arguant de son héritage à l'éducation nouvelle, de ses méthodes actives et de son attachement au modèle constructiviste. À suivre. Alors, passons à la méthode. Bon, ça, c'est un peu court. Enfin, bon, vous avez le temps de voir. Passons à la méthode. Donc, pour répondre à ces questions, j'ai pour ma part constitué un corpus réunissant des fiches pédagogiques qui sont mises en ligne par les professeurs documentalistes. Donc, c'est pareil, ça m'a occupé une bonne partie de l'été. J'ai évalué à peu près 1200 fiches recensées. Moi tout seul, par contre. Un millier de fiches pédagogiques disponibles cet été, fin août aussi, j'en ai retenu 400, qui représentent quand même à peu près un tiers des ressources existantes. Alors comment est-ce que j'ai construit ce corpus très rapidement? Pourquoi des fiches pédagogiques déjà? Ça, il faut défendre ce pari, hein, parce que c'est délicat. Les fiches pédagogiques, on peut se dire, une fiche pédagogique, ce n'est qu'une simple représentation de quelque chose qui se vit dans la classe. Hein, voilà. Donc, il ne faut peut-être pas trop demander aux fiches pédagogiques non plus. Il y a beaucoup de distorsions, évidemment, entre le déclarer, le fait, le déclarer et le réaliser. Puis, il existe des contraintes d'édition aussi qui imposent un format, on voit bien. Alors là, la raison graphique prend toutes ses raisons. Mais souvent la plus forte. Donc, ce qui est mis en ligne aussi, alors grand point aussi à débattre, hein, ce qui est mis en ligne est-il véritablement représentatif de tout ce que les collègues font, hein, au regard des huis clos de la classe et des CDI. Voilà. Donc des questions auxquelles je n'ai pas la prétention de répondre. Par contre, il y a des avantages aussi. Ce qui est formalisé et mis en ligne a une influence certaine. Au-delà, on va dire, des valeurs de traces et de témoignages de ces fiches, les fiches ont un effet d'entraînement. Hein, la plupart des collègues que j'ai interrogés, bon, il y a une étude aussi en master qui a été faite l'année dernière sur ce point, la plupart des collègues n'ont pas honte de dire qu'ils s'inspirent de ce qui est disponible en ligne. Ben, je disais tout à l'heure, ça renvoie au fait qu'il n'y a pas non plus de texte d'accompagnement. On observe ainsi une véritable circulation sur le web de fiches de prépa, de fiches outils, de grilles qui sont échangées, qui sont discutées, qui sont redocumentarisées. Et ça met au premier plan, je dirais, le rôle essentiel joué par les collectifs, les réseaux, hein, cette blogosphère, ce rôle joué dans la production des manières de faire, des méthodes, des objets didactiques. Donc moi je pense en effet que les fiches pédagogiques sont un vecteur, constituent un vecteur très très important, essentiel, de l'acculturation didactique de la profession. C'est une sorte de creuset où la profession va donner consistance à son mandat pédagogique. Alors les critères que j'ai utilisés pour réduire ce corpus. Bon, il y a des critères évidemment épistémologiques, hein, les formats de connaissances. Moi ce qui m'intéressait c'était l'écriture du texte du savoir, donc plutôt voir quels étaient les contenus de type déclaratif qui pouvaient être enseignés. Donc j'ai fait une distinction entre les visées strictement utilitaires et les visées de construction de savoirs infodocumentaires. Donc j'ai délaissé toutes les fiches qui ne visaient que des savoirs procéduraux, hein, donc, dont le but est de maîtriser un dispositif, maîtriser une démarche, maîtriser un outil. Donc je laisse de côté un petit peu la sous-matrice que j'ai indiquée tout à l'heure au tableau, la sous-matrice méthodologique, maîtrise de l'information. Voilà. Et j'ai privilégié au contraire celle qui visait des savoirs déclaratifs, c'est-à-dire des savoirs qui permettent de comprendre, qui permettent d'expliquer, hein, qui permettent aussi ce retournement sur l'objet, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. qui font de tous ces objets informationnels et techniques des objets d'étude. Voilà, je n'ai pas retenu non plus les fiches qui étaient exclusivement orientées sur les attitudes, sur la promotion de la lecture, sur le renforcement des politiques éducatives. De côté. Le critère formel, bien évidemment, toutes les fiches pédagogiques ne sont pas des fiches pédagogiques. Il y en a beaucoup qui sont incomplètes, qui se bornent à simplement la publication d'une fiche élève, hein, ou simplement un compte-rendu succinct duquel on ne peut pas déduire grand-chose. Donc ça en enlève aussi beaucoup. Et puis les destinataires, les critères aussi sur les destinataires des séances, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé les fiches qui étaient davantage spécialisées sur des publics ULIS, SECPA, FLE, soutien, club, etc. Hein, ça en fait aussi pas mal qui sortent du corpus. Out. Donc présentation du corpus. Donc source, la source des fiches d'abord. Alors là, vous voyez, c'est très très net. Hein, c'est très très net. Hein, quand on regarde où est-ce qu'on trouve ces fiches-là, on fait une distinction très très rapidement entre les sources institutionnelles et les sources professionnelles. Donc si voilà, comme le graphique le montre ici, sur une répartition des fiches par source, ça se résume très facilement à deux types. D'un côté, institutionnel, finalement, ça, c'est tout ce qui. Les fiches qui sont produites, sont publiées dans les sites académiques et qui sont reprises, relayées par le site EduBase. Et donc là, ça renvoie, ça correspond à 60% à peu près des matériaux disponibles. Et puis d'autre côté, ben, vous avez évidemment la blogosphère. Toutes les ressources qui viennent donc véritablement du terrain par le biais d'autopublications. 40%. Donc là, vraiment, c'est très très net. Ce qui est déjà pas mal, je trouve, en proportion. C'est déjà pas mal. Mais bon, ça renvoie à des modèles très différents. Parce que d'un côté, évidemment, toutes les fiches qui sont publiées dans un contexte institutionnel présentent un aspect plutôt formel. Des fiches sont souvent préformatées par l'institution, par des collectifs qui sont liés à l'institution dans les académies. Les contenus sont en général fortement structurés. Le mode est plutôt impersonnel, c'est-à-dire qu'on a une disparition d'auteur à l'intérieur de la fiche, hein, où il est peu présent. Et puis enfin, des relations avec les lecteurs sont assez faibles, et les lecteurs sont vraiment considérés comme des consommateurs. Voilà. Là, j'irais peut-être reprendre, si j'ai bien compris, hein, la typologie de Guétala, on serait du côté du domaine peut-être. Et puis alors la blogosphère, c'est peut-être du côté de l'agrégat, parce que très fortement connecté. Non. Donc du côté de la blogosphère, on est sur un mode narratif. On se raconte, on raconte. Hein? La forme, c'est évidemment plutôt le billet. Les contenus sont beaucoup plus faiblement structurés. Ce qui est en acte, c'est un modèle personnel, presque affectif dans certains cas. Un recours systématique au je, au pronom. Par contre, on assiste aussi à une construction vraiment progressive dans le temps, qui est très intéressante à observer, hein, d'une réflexion, véritable réflexion, et d'une identité professionnelle, une prise de conscience de l'identité professionnelle. Et les relations, évidemment, là, avec les lecteurs, des lecteurs amis, hein, sont très très fortes, relations à l'intérieur de cette blogosphère. Pour les niveaux représentés, à quel niveau s'adressent ces fiches pédagogiques? Donc on a une répartition, on peut observer une répartition des fiches selon les niveaux. Ici, on va voir que, évidemment, il y a beaucoup plus de fiches à destination des classes de 6e et des classes de 2e que pour les autres niveaux. Plutôt 6e et 2e, ça correspond évidemment au niveau où les professeurs documentalistes ont plus la main, hein, avec les heures dédiées qui sont inscrites à l'intérieur. Bon, mais ce corpus est quand même bien représentatif. Si je fais la somme des fiches dessinées au collège et au lycée, par exemple, et au LP, bien, je me rends compte, finalement, par rapport à la répartition des établissements du secondaire par type, eh bien, finalement, hasard, on trouve quasiment la même répartition, avec un écart de plus 3 dans les fiches, plus 3,5 pour le collège, moins 2,5 pour le lycée et moins 1% simplement pour le LP. Donc là, il y a une très forte représentativité, donc ouf, voilà, c'est quand même, de ce point de vue-là, assez représentatif. On peut regarder aussi du côté des années de publication de ces fiches. Alors là, évidemment, ça pose davantage de problèmes. Je n'ai pas pu remonter avant 2003. Vous voyez déjà. Donc mon corpus court de 2003 à 2015, avec évidemment une belle accélération à partir de 2012. Donc une disponibilité plus grande des fiches plus récentes. Évidemment, mise en cause, là, la mutation continuelle des supports, la migration sur d'autres serveurs. Donc évidemment, les liens sont brisés. C'est très difficile à suivre. C'est dommage. C'est dommage. Et puis, en plus, il y a un autre phénomène quand même, qu'on observe très très récemment. C'est que les fiches sont un peu considérées comme des produits de consommation. Elles sont jugées périssables, très vite périssables. Et elles ont même, dans la notice, une date de péremption. Cette fiche s'autodétruira dans 4 ans. On retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout dans le cas de fiches et de sites qui sont très proches du numérique, très proches des outils, hein, des outils technologiques. C'est-à-dire que finalement, l'intérêt de la fiche est indexé à l'outil. Donc comme on travaille sur des petits outils qui ont des durées de vie très très courtes, on pense que dans 4 ans, la fiche sera plus pérenne. Mais voyez, donc il y a vraiment une centration sur l'outil plutôt que sur la réflexion didactique qu'il y a derrière. C'est quand même dommage. La durée de vie moyenne d'une fiche, c'est 4 ans. Bon, c'est dommage, parce qu'il y a de très très bonnes fiches qui disparaissent du coup. Il faudrait un réservoir, il faudrait un dépôt légal pour les fiches pédagogiques. Bien, les résultats. Ah, les résultats. Alors, la méthode suivie hein, pour obtenir ces résultats, c'est que pour chaque fiche, j'ai essayé de repérer, d'identifier là où les notions qui étaient mobilisées et là où les méthodes pédagogiques qui étaient mobilisées pour les séances. Qu'elles soient explicitement ou non identifiées par leurs auteurs en tant qu'objectif visé. C'est-à-dire que je ne m'en suis pas tenu à la liste des objectifs, parce que dans certains cas, vous avez 2-3 pages d'objectifs, je vous disais, tirer des puzzles de B2I, du socle, etc. Ça fait 2-3 pages de la liste. Et quand vous arrivez au nœud de la séance, vous avez 3 lignes pour le déroulement. On voit souvent ça quand même. Bon, donc je ne me suis pas intéressé, je ne suis pas resté là, fort heureusement, hein. J'ai essayé d'identifier les notions telles qu'elles ressortaient des tâches que l'on proposait aux élèves, c'est-à-dire ce qui était réellement travaillé dans la séance au travers de la fiche. Donc la liste des notions elle-même sera globalement très rapidement présentée plus tard. Par contre, il est très vite apparu qu'à partir de ces notions, les séances pointées pouvaient être regroupées autour d'un nombre réduit de thématiques. La question tout à l'heure, c'était est-ce que ça s'éparpille, ça part dans tous les sens, ou est-ce qu'il y a une cohérence? Ben voilà, ça a été très facile, ça. Alors là, vraiment, très très simple. 10 thèmes ont rapidement été identifiés, que j'appellerais, je cherchais ce qu'on pouvait dire, bon, ce sont des thèmes finalement qui permettent d'organiser, du point de vue des enseignants, hein. On est sur un miroir, je prends un miroir et je regarde ce qui se passe. Des thèmes qui permettent d'organiser l'enseignement de l'information documentation aujourd'hui. Donc je vais appeler ça des termes organisateurs de l'enseignement de l'information documentation. Des sortes d'objets matriciels, pour reprendre l'idée de la matrice de tout à l'heure. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Évidemment, ces thèmes ne sont pas traités à égalité. On peut les ranger de manière décroissante par le nombre de fiches hein, qui s'y réfèrent. Donc on va voir au premier rang davantage le thème que j'ai appelé médias de masse, parce que ce n'est pas seulement la presse, mais médias de masse en général. On trouve de plus en plus de fiches orientées vers le média radio, le média télévisuel, par exemple. À ne pas superposer trop étroitement avec l'OAM et avec les propositions du CLEMI. Toutes les fiches ne font pas référence à la semaine de la presse et des médias à l'école ou au CLEMI. Les profs doc mobilisent largement ce thème en dehors de l'EAM, sans que ce soit estampillé tel. Et pour cause, je dirais, quand même, l'information journalistique a depuis longtemps intégré le champ épistémologique de l'information documentation. Enfin, il n'y a qu'à voir comment sont organisées les CDI. On a l'habitude de les représenter par fonds de fiction, fonds documentaires, kiosques, etc. Finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a de l'information documentaire, de l'information digitique ou fictionnelle, et puis de l'information journalistique. Et au dernier rang, le petit poussé, au dernier rang, on va trouver centre de ressources. Et pourtant, on sait bien qu'en seconde comme en sixième, ça prend, c'est un incontournable. Mais je vous rappelle que ce qui m'a intéressé, moi, c'était l'entrée par les savoirs déclaratifs. Et donc là, évidemment, il y a beaucoup moins de notions qui présentent le CDI aux arrivants, aux élèves arrivants, qui présentent sous l'espèce d'un centre de ressources. Hein, c'est autre chose. Il y en a qui profitent de la présentation pour introduire une notion, centre de ressources, et d'autre part. Donc du coup, c'est que ça se retrouve très minoritaire. Alors les autres thèmes, globalement, hein, on se rend compte qu'il y en a qui rendent bien compte de l'activité didactique, on va dire classique, le fonds de commerce des professeurs documentalistes, l'évaluation d'infos, le document, la recherche d'informations, là aussi, hein, d'un point de vue notionnel, c'est-à-dire s'intéresser sur la requête, sur le mot-clé, sur le besoin d'information. Et puis on a des thèmes qui sont beaucoup plus récents dans notre histoire, hein, qui vont suivre l'actualité des cycles, qui vont témoigner de l'attachement de la profession à cette discipline de référence. Par exemple, l'identité numérique, la veille, publication, et puis Internet et le web. Répartition chronologique aussi des thèmes. Donc, ça, c'est intéressant de voir aussi. C'est une des questions que je m'étais posée, c'était de savoir quand est-ce qu'ils étaient apparus. Alors, maintenant, je ne peux pas remonter avant 2003. Donc là, ici, ils sont regroupés, vous voyez, tout ce qui est les fiches les plus... les thèmes les plus représentés par les fiches sont exprimés par un dégradé de couleur. Donc, plus c'est foncé, plus c'est important. Plus c'est en haut à gauche, et plus c'est ancien. D'accord ? Ce qu'on remarque, c'est que les thèmes traditionnels sont évidemment présents dès le début du corpus, hein, en 2003, mais que, par exemple, l'identité numérique et veille ont émergé beaucoup plus récemment, respectivement 2011 et 2012. On remarque la présence constante donc, de médias de masse, du thème médias de masse, tout au long du cursus, le cursus sera plus tard, tout au long de cet axe chronologique, et avec cependant un traitement plus important sur une période restreinte pour, par exemple, la recherche d'informations entre 2003 et 2008. Donc on peut supposer, là aussi, parce qu'on ne maîtrise pas, on peut supposer plusieurs influences importantes, hein, des actions, on pourrait dire, des thèmes qui sont soufflés ou ciblés par l'institution, comme la veille ces dernières années, l'influence des trams, la sortie d'ouvrages de référence, je pense par exemple à l'évaluation de l'information, ou à des objets phares comme l'identité numérique, hein, dans le monde de la recherche. Donc ça montre en regard une profession qui est sensible aux modes, à l'ère du temps, mais ça montre aussi une profession qui est très réactive, hein, qui très rapidement se met à construire des outils didactiques. Du point de vue de la répartition curriculaire maintenant de ces thèmes organisateurs, en résultat pondéré, c'est-à-dire, évidemment, il y a beaucoup plus de sixièmes, on pourrait penser qu'on va trouver plus de fiches, mais j'ai ramené au nombre à chaque fois de thèmes selon le niveau, de fiches selon le niveau. Donc, ce qu'on va voir ici, alors pareil, hein, en haut à gauche, et puis du plus foncé au plus clair. Axe thématique, d'abord, peut-être, du côté des thèmes, et puis axe curriculaire, du côté des niveaux d'élèves, des niveaux de classe. Donc, axe thématique, ben, on a des attributions comme ça qui sont massées, qui sont très cohérentes, avec tout de suite ce qui frappe, c'est un déséquilibre entre deux groupes de thèmes. Les cinq premiers et les cinq derniers. Deux groupes équilibrés. Les cinq premiers sont beaucoup plus mobilisés donc, que les cinq derniers comme médias de masse, surtout de la sixième à la seconde, plus le LP. Évaluation de l'information, il est vraiment très regroupé entre quatrième et terminale. La veille, première, terminale et LP. Documents principalement traités en sixième. On se retrouve bien, je pense. Hein. Y a des attributions qui sont beaucoup plus dispersées. Hein. Identité numérique, on va la retrouver en sixième, en cinquième, en troisième, au LP. Et puis, il y a des traitements qui vont être soutenus tout au long du cursus, comme la recherche d'informations, comme médias de masse, l'évaluation de l'info, l'identité numérique. Du point de vue de l'axe curriculaire, quelles sont les priorités? Donc, en sixième, on a quatre priorités, médias de masse, identité numérique, documents et recherche d'informations. En cinquième, c'est la même chose, mais on va s'étendre à l'évaluation d'information. On va attaquer les thèmes de la publication, du moteur de recherche, d'Internet et du web. En quatrième, on va insister sur l'évaluation de l'information et la publication. Et puis, on va voir apparaître des premières fiches sur la veille. En seconde, c'est le seul niveau où tous les thèmes organisateurs sont mobilisés. Et on va insister particulièrement sur l'évaluation et médias de masse. Première et terminale, on a à peu près les mêmes priorités. Ça m'embête, vous ne voyez pas. Ah ben si, c'était tout simple. Voilà, désolé. Voilà, je disais donc première et terminale, on a presque les mêmes priorités, notamment évaluation, veille et recherche d'informations, mais on abandonne en terminale quatre thèmes blancs. Et puis en LP, les 9 thèmes sur 10 sont mobilisés avec une insistance sur médias de masse, identité numérique et veille. Donc évidemment, on peut aussi inférer certaines raisons, hein, comme l'accès facilité aux classes en 6e et en seconde, et puis une forte dépendance au programme scolaire, au programme disciplinaire. Donc, intéressons-nous maintenant à la question des contenus notionnels qui vont composer ces différentes thématiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous imaginez bien. On peut effectuer par contre quelques représentations cartographiques. Le repérage de ces notions qui sont donc mobilisées au travers de ces 10 thèmes va permettre de circonscrire le champ notionnel de l'enseignement de l'information et de l'augmentation. Il y a un champ notionnel qui est donc déterminé, je le rappelle quand même, par les choix didactiques des enseignants. Donc je ne vais pas parler ici de champ conceptuel, parce que là ça renvoie au savoir savant et aux disciplines, à l'aspect disciplinaire. Je vais parler bien de champ notionnel du côté des savoirs scolaires. De la même manière, je ne vais pas évoquer les cartes conceptuelles, mais je vais bien évoquer des cartes notionnelles, c'est-à-dire des cartes des savoirs enseignés qui sont associés au thème organisateur. Donc en voici une autour du thème organisateur centre de ressources, par exemple. Donc chaque thème, ou bien ici autour de l'identité numérique, chaque thème va réunir un certain nombre de notions particulières, articulées entre elles, qui vont former un réseau, que l'on peut organiser en sous-thèmes, évidemment, afin de penser des séquences éventuellement. Donc on notera aussi, moi je note dans l'ensemble des notions qui ressortent de ces 10 thèmes, je constate une certaine exhaustivité des contenus qui sont traités par la profession. Donc au troisième et dernier exemple, autour de moteur de recherche, je pense que ces outils d'organisation peuvent intéresser les collègues, déjà parce qu'ils peuvent s'y retrouver, mais en même temps compléter les éventuelles lacunes ou la manière dont ils appréhendaient la totalité de ces contenus. Donc voilà, j'insiste pas plus, voilà pour les contenus. Qu'en est-il à présent des méthodes mobilisées pour la transmission de ces contenus? Pour ce faire, je me suis référé à une typologie que j'avais mise en évidence dans une étude précédente. Donc je me réfère à 6 méthodes principales, 6 méthodes répertoriées. Alors je reprends vous retrouvez cette infographie en haut de la diapositive. Et ce que je constate déjà, c'est que la répartition des fiches par méthode, tout niveau confondu, cette fois-ci, est loin d'être équilibrée. Il y a une nette préférence pour la méthode interrogative, que j'appelle la méthode interrogative dirigée, près d'un tiers, puisqu'on est à presque 31%. Alors là, c'est donc la profession, dans un tiers des cas, a recours à cette méthode interrogative dirigée. C'est-à-dire quand le cours est dirigé au moyen d'un dialogue entretenu avec la classe. C'est le cours dialogué dont avait parlé Housset. Quand le cours est appuyé par une fiche élève qui décompose les étapes du cours, organisées en petits exercices, Ou bien, ce que je vois apparaître aussi, c'est quand l'enseignant part d'un questionnaire donné aux élèves et qu'après, il va exploiter au fur et à mesure les réponses au questionnaire pour construire son cours. Donc là, on a affaire à une centration sur le cours lui-même qui est assimilé à un message. Hein, on cherche, et je reprends des expressions données par des collègues, on cherche à faire passer le message. Et puis après, on va retrouver un groupe assez serré, assez resserré, un peloton de trois méthodes régulièrement utilisées. Donc on va trouver au second rang la méthode expositive à visée procédurale, 22%. Donc littéralement, qu'est-ce qui se passe? On expose une procédure en fournissant des explications. Par exemple, classique évidemment, la recherche d'informations pas à pas. On explique la méthode. Mais aussi, de plus en plus fréquemment maintenant, la procédure et les outils à utiliser pour démarrer une veille. On fait un cours dessus. Le paramétrage guidé pour un profil Facebook. Je relève aussi les étapes à suivre pour évaluer un site web. Mais dans le cas de l'AERI, c'est moins frappant parce que de moins en moins, on consacre 5-10 minutes en début de cours à expliquer la méthode. Elle est censée être acquise ou censée avoir été expliquée les années précédentes. On attend de l'élève qu'il l'applique, cette méthode. Et on est tout le temps donc, ici sur un schéma exposition-application. Au troisième rang, j'ai repéré la méthode expositive à visée déclarative, cette fois-ci, près de 21%. Donc là, on n'expose pas un savoir-faire, mais on expose le savoir scolaire qui est visé, hein, sous sa forme déclarative. L'exposition des notions donc, se fait par le professeur en amont du cours, donc c'est une exposition a priori. Et là, les formes sont diverses. Alors évidemment, c'est pas toujours, et c'est plus beaucoup d'ailleurs, la représentation traditionnelle du discours de l'enseignant qui professe. On utilise des subterfuges, d'autres méthodes. De plus en plus aujourd'hui, on a recours à une médiation documentaire. J'ai vu apparaître dans le temps d'abord des diaporamas. Donc il y a un diaporama qui affiche à la classe dans lequel on explique un certain nombre de choses, qui est verbalisé, donc qui est expliqué par l'enseignant. On assiste ensuite à des présentations Prezi. On voit beaucoup apparaître les pauvetounes. De plus en plus, ça, ces petits trucs animés qui font beaucoup de bruit avec des super musiques, hein, bien ciblées. On voit apparaître des vidéos, mais c'est le même schéma finalement, hein. C'est-à-dire exposition et puis après application, sauf que l'exposition est médiatisée. Quatrième position seulement, hein, parce que là vous voyez que jusqu'ici les méthodes actives étaient très peu mobilisées. Quatrième position seulement, on voit une méthode active que je nommerais, moi j'appellerais, qualifierais de basée sur l'observation, donc près de 19%. Là les contenus ne sont plus donnés ni organisés a priori. Ils doivent être déduits du travail intellectuel que fournit l'élève à partir d'une tâche. Donc on lui propose une tâche, et donc évidemment, il faut faire très attention ici aux consignes, aux matériaux qui sont donnés, aux productions qu'on demande des élèves. C'est suivi généralement, la phase de travail, d'activité d'élève, est suivie généralement d'une mise en commun qui va être chargée de dégager progressivement la notion visée, mais qui doit être ensuite, sur un plan individuel, structuré pour chaque élève, par chaque élève. Là, c'est davantage une centration sur la tâche et sur la construction des connaissances. En cinquième position, alors loin derrière le peloton, avec 6-8 ici, hein, j'ai retrouvé l'utilisation de la méthode active basée sur l'investigation. 7%, donc, près de 16%. Donc c'est beaucoup plus rare. On pense aux situations problèmes, hein, tout de suite pour le qualifier. C'est beaucoup plus rare, évidemment, parce que ça demande un temps plus long. Et puis aussi parce que l'issue du cours est toujours plus ou moins incertaine. On ne sait pas trop, comme c'est assez ouvert, on n'est pas trop sûr de maîtriser. On aime bien maîtriser les choses. Donc pareil que pour la précédente méthode, hein, les contenus doivent émerger a posteriori. La centration se fait sur la tâche, mais la tâche, elle est fondée cette fois-ci non pas sur un travail d'observation, de comparaison, mais elle va être fondée sur un travail d'investigation, c'est-à-dire un problème à résoudre. Sophie disait qu'un cours devrait être la réponse à une question. On est là. À résoudre par l'expérimentation, par la manipulation. Par exemple, demander aux élèves de prouver pourquoi un site ne serait pas fiable. Par exemple, faire produire un sondage par les élèves eux-mêmes sur les pratiques Internet des ados. Ou bien on donne un corpus de photographies et on demande aux élèves d'expliquer pourquoi certaines ne pourraient pas être publiées. C'est à eux de trouver. Donc là, on évoque ici les démarches hypothético-déductives, les situations problèmes, la démarche d'investigation, etc. Donc là, ici, le cours est vu comme un laboratoire. Et puis en toute dernière position, mais bon, petit poussé là aussi, mais bon, il mérite d'être mentionné aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a en émergence, hein, c'est ce que j'appelle la méthode interrogative à visée contradictoire. C'est quand le prof n'est pas d'accord avec les élèves. Bon, c'est une variante du cours dialogué, mais extrêmement maîtrisée par l'enseignant, avec une expertise très très forte de sa part. Ça se base sur les représentations des élèves, hein, qu'il va s'agir de renvoyer dans les cordes, hein, de détruire, hein, pour reprendre là cette fois-ci Bachard, hein, les impuretés, de détruire avant de pouvoir construire quelque chose d'autre. Donc c'est la technique que j'appelle la technique de réfutation, qui a été, magnifiquement illustré, initié par le cours de Frédéric Cravard, ça c'est une date, hein, pour cette, chez nous en information de documentation en tout cas, hein. C'était en 2008, vous savez, c'était cette séance qui avait été vidéocaptée, faut-il enseigner Google, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et bien finalement, elle a fait tout doucement tâche d'huile, elle fait école, si j'ose dire, puisque quelques collègues l'ont adapté en classe, et même dès la sixième, hein, pour combattre les représentations des élèves. Donc là, c'est une centration sur vraiment, en diacrite, ce qu'on appelle les conceptions des élèves, avec une très forte guidance donc, de l'enseignant. Alors, comment se répartissent ces fiches par modèle? Je ne parle pas de méthode, mais de grands modèles. C'est-à-dire que c'est les quatre premières méthodes, on peut les regrouper plutôt dans le modèle transmissif, avec une forte guidance de l'enseignant. Et les deux autres méthodes actives par observation ou investigation, évidemment, dans les méthodes plutôt du côté des méthodes actives. Ben, quand on réunit les paquets, on se retrouve avec quand même une forte inégalité et puis une prédominance du modèle transmissif. Hein. Près de 3/4 des fiches pédagogiques décrivant des séances suivent le modèle transmissif. Et 1/4 seulement pour le modèle actif, c'est-à-dire quand le savoir doit être davantage construit par l'élève à la suite d'une tâche, au travers d'une tâche. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? À point nommé, réutilisée par l'OCDE, une enquête Thalys, enquête internationale sur l'enseignement et l'apprentissage, toutes disciplines confondues. Et là, on voit que c'est la même chose chez nos collègues de discipline. Je note, et ce n'est pas le taux le plus important, 83% des collègues disciplinaires interrogés disent qu'en effet, c'est lorsque les élèves résolvent eux-mêmes des problèmes qu'ils apprennent le mieux. 83% des convaincus, d'accord. Mais dans leur pratique, ils avouent avoir plus souvent recours à des pratiques pédagogiques passives. Donc il y a un décalage entre le dire et le faire, bien évidemment. Alors est-ce que c'est pareil pour les professeurs documentalistes? Bah, pourquoi pas, hein. En plus de ça, je dirais que il y a quand même, dès que quelque chose ne va pas, on renvoie la formation initiale et continue. Bon, ben là, je pense que chez nous, il y a vraiment dans les académies et dans les ESP aussi, peut-être, pas, il y a une étude qu'il faudrait bien mener là-dessus, un déficit de formation didactique. Vraiment frappant. À l'ESP, évidemment, mais ça, c'est dans l'ordre des choses, on indexe les contenus de nos formations aux épreuves du CAPES, notamment donc en première année. Et puis, épreuves du CAPES, il y en a une à l'oral. MSP, c'est pas, comme je le croyais au début, maîtrise des savoirs pédagogiques, hein, c'est maîtrise des savoirs professionnels. Donc c'est celle-ci qui s'oriente du côté pédagogique, mais finalement, elle n'est pas orientée du côté des méthodes, de la didactique, des contenus, etc. Elle est, on sait bien, orientée collaboration avec les disciplines, orientée politique éducative et orientée ressources numériques. Donc évidemment, c'est difficile de construire une formation initiale solide en didactique à partir de ça. Mais ça va conditionner aussi beaucoup de choses. Si je regarde ces méthodes avec le filtre des niveaux des élèves, je rappelle que la barre à peu près entre les deux modèles, là, 60-40, si vous vous souvenez à peu près, je remarque globalement que les méthodes actives sont plus mobilisés au milieu du cursus, quatrième à seconde. Et que le modèle transmissif va être plus utilisé au début du collège et en première et terminale. Alors en première, c'est assez paradoxal si on pense au TPE. Mais moins si on regarde ce qui se passe effectivement. C'est-à-dire que là, en effet, on a des fois les enseignants de calendrier sont très peu de temps pour intervenir en TPE. Et ce qu'ils font, c'est de l'expositif à visée procédurale. Hein. Ils réexpliquent, hein, comme ils disent, ils font des piqûres de rappel. Beau terme. Voilà, donc ici, je n'affinerai pas davantage quand même cette répartition, mais voilà ce qu'on pouvait, dire. Alors, je terminerai avec quelques prolongements par rapport à ça. Voilà, des prolongements, on pourrait dire, qui pourraient conduire à un nouveau chantier didactique à partir donc, de ce que renvoie la profession dans les CDI. Et je voudrais explorer rapidement deux aspects à prendre en compte pour essayer de tirer bénéfice de ce curriculum, ce qu'on peut appeler ce curriculum réalisé. D'abord, la question, enfin, une idée des notions à facettes. Quand on regarde de plus près le champ conceptuel de chaque thème, on remarque que certaines notions sont communes à plusieurs thèmes. On est dans une logique intégrative et non pas dans une logique exclusive. Par exemple, la notion document va se retrouver dans 5 thèmes différents, que vous voyez ici, médias de masse, documents, internet et web, etc. La notion économie de l'information va la retrouver dans 4 thèmes différents. La notion média de masse, on va la retrouver dans 5 thèmes également. Donc je fais l'hypothèse que chaque thème offre un contexte particulier dans lequel chaque notion mobilisée va pouvoir se présenter d'une manière particulière, d'une manière différente. Elle va présenter un angle différent. Elle est finalement influencée, elle va montrer la face la plus en adéquation avec le thème qui intéresse. Donc elle va présenter un angle, une caractéristique propre au champ conceptuel qui est considéré par cette thématique. Et je vais appeler cet angle, je vais l'appeler facette, si vous voulez bien. Et donc, prise dans des champs différents, on va dire qu'une notion ne montre pas la même facette d'elle-même. Donc il en découlerait que pour construire complètement une notion, il faudrait pouvoir l'aborder dans différents champs, afin d'explorer la plupart de ses facettes. Donc un autre exemple ici avec la notion média. Où l'on voit qu'elle peut être explorée par des thématiques comme identité numérique, recherche d'infos, internet et web, médias de masse, publication sur le web. J'ajouterais, là ça va donner du travail aux Wikinotions, j'ajouterais qu'il faudrait du coup envisager de réfléchir à un niveau de formulation par facette, ce qui démultiplie un peu le travail. Niveau de formulation, selon qu'on aborde la notion par le thème d'identité numérique, recherche d'informations, médias, etc. Donc concrètement, ça veut dire, pour en terminer sur ce point, ça veut dire qu'il faudrait s'appuyer sur les facettes pour faire entrer les élèves dans la construction de la notion. Est-ce qu'il s'agit là pour autant de progression spiralaire? Oui et non, il faudrait débattre là-dessus, mais ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. La progression spiralaire, ce serait de rentrer plus en profondeur à chaque fois dans la notion. Ici, ce serait simplement, ce n'est pas par approfondissement successif, mais par révélation progressive des différentes facettes de la notion. Eh oui, je chipote un peu. Ce ne serait pas la même chose. Pas tout à fait la même chose. Donc, selon les contextes rencontrés. Voilà, dernier point et chantier possible aussi, ce qu'on appellerait le champ d'application des notions. Un autre intérêt de cette étude, évidemment, vous voyez bien, c'est de disposer pour chaque notion de contexte didactique que fournissent les fiches pédagogiques. Donc là, il faut revenir vers le corpus, je vous dis 400 fiches quand même qui ont été triées, et là, il y a vraiment un matériau exceptionnel à travailler, je pense. Quelque chose de très intéressant. C'est vraiment une mine à exploiter pour tenter de délimiter le champ d'application des notions, c'est-à-dire la manière dont elles sont effectivement présentées aux classes. Lorsqu'elles sont mobilisées. Ça nous permettrait d'examiner pour chaque notion, chaque thème déjà, mais pour chaque notion plus précisément, on pourrait dire le dispositif didactique qui est mis en œuvre. Les dispositifs didactiques sont souvent repris les uns des autres, mais il y en a aussi qui sont très originaux et très intéressants. C'est-à-dire s'intéresser à la situation de référence qui est proposée aux élèves dans leur activité, dans la tâche qu'on leur propose, les tâches bien évidemment, les exercices, mais aussi au travers des exemples qui sont donnés, des matériaux qui sont traités, matériaux très très importants, des productions à réaliser éventuellement, et puis autour de l'évaluation aussi, qui propose souvent d'autres situations de référence. Donc le but qui vient évidemment ici, au travers de ce travail-là, qui reste à faire, ce serait de déterminer des familles de situations, où la notion serait considérée comme opératoire, c'est-à-dire une notion qui a du sens, parce qu'elle permet d'expliquer un faire ou un fait. Voilà, en conclusion, que nous apporte cette étude? Bon, en positif, pour l'instant, et c'est un voie qui progresse aussi, moi je n'ai pas terminé véritablement, donc c'est un état de l'exploitation de ce corpus, de ce travail. Donc en positif, moi je le vois un petit peu comme une sorte de miroir qui est tourné vers la profession, qui lui est retourné, qui peut permettre d'apporter une certaine clarification des objets, c'est-à-dire savoir ce que l'on enseigne, savoir ce qui nous réunit. Et puis ça peut être aussi un message, pour peut servir un message tourné vers nos interlocuteurs, hein, qui se demandent toujours ce que l'on enseigne. J'irai avec ça, au moins, voilà. Ça permet évidemment, là aussi, de mieux comprendre notre place dans l'EMI. En négatif, évidemment, c'est se dire, c'est de l'autosatisfaction. Donc, voilà, regardez ce qu'on fait, vous avez une belle fleur, la bleue, c'est magnifique, là on fait tout ça, donc voilà. Donc le risque, c'est de contenir aussi l'information en documentation à l'intérieur d'un cadre qui serait restreint. Bon, donner l'impression qu'on pourrait s'en contenter, on est assez content de notre petit trésor, finalement on a fait tout ça. Alors aussi que, faut bien le dire aussi, cet état de fait, ce n'est que la résultante de contraintes aussi institutionnelles, dans lesquelles on nous a considérés réduits, hein, qui ont été données à la profession, qui n'a pas pu frayer son chemin aussi, à partir là où elle aurait voulu frayer. Hein. Il y a aussi énormément de contraintes. Bon, et je dirais, ce résultat est déjà en soi méritoire. Voilà, donc il ne faut pas en faire un cadre prison, mais plutôt un cadre socle, un de plus, à partir duquel progresser et s'étendre. Hein. Voilà, la plasticité, j'insiste beaucoup sur la plasticité possible de cette base. Donc on assiste là à une véritable fabrique des savoirs scolaires, par les savoirs expérientiels de la profession, avec ces tâtonnements, et sous l'effet positif, je le rappelle, hein, de tous ces réseaux d'échange. Voilà. Moi, je ne parlerai pas de contre-transposition didactique ici, parce que s'il y en a une, il s'agit ici d'une contre-transposition didactique interne. C'est-à-dire que les savoirs-savants, ils existent déjà. Ce n'est pas comme en EPS, avec les STAPS, où il a fallu reconstruire l'université, hein, les savoirs classiques. Ici, ils existent déjà. C'est simplement l'intermédiaire qui nous manque. Voilà. Pour autant, le chantier didactique, c'est une tâche qui est très très lourde et qui ne devrait pas incomber entièrement à l'enseignant documentaliste. D'où cet appel, mais qui a déjà maintes fois fait, à un travail conjoint avec les chercheurs et les formateurs, mais aussi avec l'institution, dans le respect des expertises de chacun. Un respect mutuel et la reconnaissance que cela exige. Voilà, j'en ai terminé là, et si j'ai encore un petit peu de temps, il y aura un bonus. Là, j'ai regardé, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quatre matrices qui nous sont proposées, quatre curriculums, on pourrait dire, hein, qui nous sont proposées ou auxquelles on peut se référer par rapport à ces 10 thématiques. Hein, il y a le Mediadoc, par exemple, avec les 7 notions organisatrices, là, qui a été fait en 2007. Donc c'est vrai que j'ai eu la curiosité d'y retourner, de voir si ça collait ou si ça ne collait pas. Il y a le fameux classeur EMI 2014 avec ses 10 séquences. On a le curriculum FATBEN avec ses 4 champs organisateurs et puis la matrice, la récente matrice de Toulouse avec ses 6 objectifs opératoires. Bon, donc j'ai essayé de voir le taux de recouvrement un petit peu. Hein, et voilà, the winner is le curriculum de la FATBEN. Bon, un petit peu moins avec le classeur EMI, voilà, je peux à peu près un taux de recouvrement de 60%, mais le fait est que le classeur EMI ne touche que le collège. Hein, donc évidemment, veille va quand même disparaître. Voilà, alors autre question qui m'intéressait davantage, c'était évidemment, là je vais revenir un petit peu à l'EMI, hein, c'est est-ce que ce curriculum réalisé s'articule avec ce qu'on entend de manière très très large sur l'EMI comme convergence des différentes littératies ? Très très largement. Donc là, sans rentrer dans les détails, si on essaye de voir un petit peu parmi les 10 thèmes différents, ceux qui renvoient à la littératie informationnelle ou médiatique ou numérique, vous voyez, le tableau parle de lui-même. L'infodoc est souvent, l'infodoc recouvre très largement ces différents champs dans la mesure où elle se réfère à une culture informationnelle globale, qui est sa matrice disciplinaire. Donc je pense qu'il ne faut pas enfermer la matière information-documentation dans la seule littératie informationnelle. Ça, je pense que c'est vraiment un piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber. C'est quand on oppose, dans les discours institutionnels, qui oppose l'information-documentation à l'EAM, etc., etc. Hein, je pense qu'il faut distinguer la littératie informationnelle de la matière information-documentation. La matière information-documentation, elle recouvre tous ces champs, et vous voyez, très très largement. Voilà, et alors le tout dernier point, j'ai regardé comme vous, je suppose, le référentiel définitif, certainement, de l'EMI, pour qu'il apparaît dans les programmes du cycle 4. Avec ces 27 compétences regroupées en 4 axes. Et donc j'ai essayé de croiser tout ça, donc là c'est la synthèse, hein. J'ai essayé de croiser tout ça pour savoir s'il y avait une correspondance plus ou moins étroite. Donc j'ai trouvé 33 correspondances. Hein, en les croisant avec les 10 thèmes organisateurs qu'on a vu tout à l'heure. Alors, quel est le bilan ? Voilà, très rapidement, des compétences qui sont très très présentes, comme recherche d'information, j'ai trouvé 9 occurrences sur 27, ce qui fait quand même déjà un bon tiers, donc avec une dimension donc, qui dénote une dimension procédurale très très marquée, s'agissant du référentiel EMI. Médias de masse, j'ai trouvé 6 occurrences, 6 correspondances sur 27, presque un quart, réparties sur les 4 compétences, par contre, de l'EMI. Mais j'ai rien trouvé sur Internet et le web. Je suppose que c'est vu en technologie. Rien sur la veille. Mais on n'est qu'au cycle 4 là aussi. Hein, bien que sur le terrain, on a vu que c'était traité aussi pas mal dès la troisième. Alors, toutes ces compétences inscrites à ce référentiel, on le voit, sont bien connues des enseignants documentalistes et déjà très largement mobilisées. Deuxième remarque, les thèmes organisateurs. Ils explorent même beaucoup plus largement, au-delà de ça. Donc l'information documentation semble, au travers de ce texte-là, je ne sais pas généralement, hein, semble, l'englober semble plus large que l'EMI. Cela dit, tout ce qui appartient au champ de l'EMI ne semble pas inclus dans ce référentiel limitatif. Ça, c'est une vraie question à se poser sur ce document. C'est que les programmes disciplinaires, ils intègrent des parts plus spécifiques. Vous avez le référentiel à la fin du document, parce que vous vous souvenez, mais l'EMI est intégré à toutes les disciplines avec des particularités très précisées. Donc le référentiel ne renvoie pas à tout ce qui est traité à l'intérieur des disciplines. Il y a un décalage. Je pense par exemple à l'image en lettres et en arts plastiques, à la culture numérique en technologie, hein, qui n'apparaissent pas dans le référentiel ici. Donc on peut s'interroger sur le statut de ce référentiel. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement un référentiel de validation ? Un plus. Voilà, merci pour le... C'est ça.